Omega. C'est l'heure pour vous d'écouter votre chronique préférée. Attention, nous allons vous parler de l'Internet du futur. Accrochez votre ceinture pour voyager tout en sécurité dans le temps.
Salut la compagnie, salut Cécile, salut Mumu.
Bonjour Anya.
Anya est très en forme.
Mais carrément, là je suis réveillée au taquet, trop de café.
Alors,
peut-être.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Anya?
Bon, beaucoup de choses au programme, juste il faudrait que j'arrive à l'afficher. Mais
Alors je vais te le dire, un peu d'actu. Hein,
quelques comme
d'actu.
D'habitude de toute façon.
Hein. Ouais. Une d'actu. Petite musique.
La technologie du futur avec blockchain.
Voilà, et puis notre rubrique agenda et enfin astrologique.
Voilà, mais tout d'abord, décryptons l'actualité du jour. Donc, notre actualité du jour commence par le virus informatique numéro 28 est sorti.
Oui, pour 2 euros seulement.
Sortez vos antivirus.
Pour 2 euros seulement, le magazine d'ACBM vous propose des informations à l'ancienne grâce à leur journal sur des sujets liés à l'informatique, toujours avec zéro pub.
Oui, alors dépêchez-vous parce qu'il y en a encore. J'en ai vu au Leclerc de Bourg-les-Valence pour ne pas faire de pub. Mais voilà, vous pouvez le trouver là-bas.
Il n'y a pas beaucoup de tirages sur celui-là.
C'est rare, précieux.
Ouais. Il y en a plus que le numéro 27, mais voilà, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Alors sinon, on a appris la mort d'André Brahic. Alors il n'était pas informaticien, mais astrophysicien. Il est décédé le 15 mai 2016 et racontait l'univers sur l'antenne de France Culture. Donc c'est une occasion de s'échapper un peu dans l'infinité du cosmos en réécoutant cette série d'émissions. On vous mettra le lien sur notre site AAA.fr.
Également dans la rubrique nécrologique, nous avons aussi l'inventeur du Middle, de la musique aléatoire, qui a rejoint aussi les étoiles il y a à peu près 15 jours. Donc René-Louis Baron, dit René pour les intimes, est aussi parti rejoindre les étoiles. Il était originaire de Romans, ce fut un musicien, compositeur, chanteur, mais aussi un génie dans la programmation musicale. Il laisse derrière lui une invention formidable, le projet Middle. Donc c'était un programme qui générait de la musique aléatoire cohérente, qui fonctionnait sous MIDI. Et le programme fut créé sur Atari au départ, puis porté sur PC. Il existait une application de ce programme avec le Lodi One, un objet futuriste, une mini-guitare de poche. Mais plus qu'un personnage, c'est un ami que j'ai perdu, puisque voilà, c'était quelqu'un que je connaissais de manière personnelle. Et donc voilà, j'espère que de là-haut, il verra d'autres applications de ses créations et de ses musiques.
Sinon, moi je reviens des RML7, les rencontres des monnaies libres. Donc ils se sont tenus la semaine dernière à Laval, donc ça fait un petit peu loin, hein, surtout oui. Avec les trains.
Oui, en amont il faut savoir aussi qu'avec les grèves c'est plus difficile de circuler. Hein.
Ça c'est sûr.
Ah ben, ouais.
Alors pendant 4 jours, nous avons discuté donc, de la théorie relative de la monnaie, donc par un certain Stéphane Laborde. Des monnaies libres, des implémentations logicielles existantes. Alors qu'est-ce qu'une monnaie libre? Rapidement, c'est une monnaie qui répond aux 4 libertés annoncées par la TRM, donc liberté de modification démocratique, d'accès aux ressources, de production et d'échange dans la monnaie. Alors en gros, ça veut dire qu'il y a des principes de symétrie dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que une monnaie libre, c'est une monnaie qui est créée équitablement par tous les participants, donc toutes les personnes, et qui est aussi équitable dans le temps, c'est-à-dire en tenant compte des générations qui se suivent.
En fait, c'est pour ça que tu me disais que tu avais parlé beaucoup de fois de temps en ce moment.
Oui, time is money.
Et oui. Donc, l'euro, par exemple, n'est pas une monnaie libre, car il est créé ex nihilo par les banques, et surtout autant qu'elles veulent. Qu'elles veulent, hein, pas que nous, on veut, c'est pas pareil.
C'est si elle a décidé que, hop, on en recrée. Sinon
comme la planche à billets chez nos amis américains.
Ouais, c'est
oui,
ça.
Donc, les
c'est...
dollars, ouais, c'est vas-y, on y va, on en crée comme on veut, c'est du papier.
C'est magique.
Ouais, donc ça s'appelle une monnaie dette. Et le Bitcoin, par exemple, hein, dont on va parler plus tard, c'est une monnaie qui n'est pas libre non plus, car elle est créée uniquement par ceux qui fournissent suffisamment de calculs pour générer des nouveaux blocs et donc de la monnaie. Et la masse monétaire maximale, en plus, est bornée, c'est-à-dire que dès le départ, on savait qu'il y aurait un certain nombre de Bitcoin et pas plus. Donc leur code monétaire, lui, ne répond pas aux 4 libertés définies par la TRM. Les 2 premiers jours donc, étaient consacrés à la technique, hein, l'étude du logiciel d'Unitaire, ce qui s'appelait avant Ucoin, qui permet de gérer des monnaies libres en peer-to-peer, et des clients comme Sakia ou Cesium, qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs comptes. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment pour pouvoir utiliser une monnaie libre avec les outils d'aujourd'hui.
J'ai juste une question. Vous étiez nombreux à ce rassemblement ?
Alors, pour ce qui était des développeurs, les deux premiers jours, on était une vingtaine. C'est vrai que c'est les septièmes hein, rencontres des Monolib. Ils ont commencé avec deux personnes. Et là, on a effectivement des développeurs qui bossent sur ces programmes-là.
Et enfin, s'ils circulent à peu près combien de monnaies libres ?
Alors en fait, circuler, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment qui circule. Il y a un projet de monnaie complémentaire, mais qui est une monnaie libre, c'est-à-dire pas adossée à l'euro, à Laval justement, qui s'appellera le sou, qui est prévu pour être lancé à la fin de l'année. Mais sinon, au niveau des logiciels informatiques, en fait, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment du test. Pour vérifier, valider les principes. Et on a une deuxième monnaie, il y a eu un premier essai, et là on a lancé une deuxième monnaie qui s'appelle Testnet, pour vraiment tester est-ce que ça marche, et surtout est-ce que les logiciels fonctionnent. Et puis le samedi, donc, c'était pour en fait faire un jeu, le jeu Géconomicus, qui permet justement d'expérimenter des monnaies différentes, avec des cartes à jouer, etc. Et on se rend compte que la monnaie dette, ça génère du stress, de plein de choses, et en fait, ça crée moins de valeur qu'une monnaie libre.
C'est intéressant comme rencontre, du coup.
Ah oui, ça permet de mettre pas mal de choses en perspective.
Ben, ça permet aussi de peut-être créer une monnaie un peu utopique, dans un sens, et de créer une sorte d'équilibre.
C'est même pas
utopique. Mieux que le troc, mieux que tout ce qu'on a actuellement, quoi, au final.
Oui,
enfin,
alors.
Je dis utopique parce que pour le moment, c'est l'état utopique, mais.
Il y a une monnaie de test qui est utilisable, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste un projet. Théoriquement, en tout cas, d'après la théorie, ça permettrait d'éviter plein de crises, parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les demi-vies, c'est-à-dire tous les 40 ans, toutes les demi-vies de l'être humain, il y a des crises, bizarrement. Mais... Enfin, voilà. Et puis le dimanche, justement, on a fait une présentation d'Unitaire et des clients pour le grand public avec des conférences. Voilà.
Et oui, et en même temps, comme tu parlais de la cryptologie avec cette monnaie libre, notre sujet du jour, ça va être blockchain. Donc déjà, nous allons vous parler de ce sujet, mais avant, faisons une petite pause musicale, donc avec un exemple. De ce que faisait Midal, de la musique aléatoire cohérente, de la musique qui se fait tout seul. Bon, bien sûr, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que les possibilités sont infinies, en fait.
Thank you.
bien voilà, c'était un exemple fait par le projet Midal. Donc René, peut-être que dans les étoiles, tu entendras cette petite musique qui te rappellera un petit peu ce que tu avais pu créer quand, de ton génie, de ton vivant.
Et Midal au phonore.
Ah oui. Donc, plus d'informations sur realcomposer.com. Voilà. Et passons à notre sujet du jour avec blockchain.
Eh oui, la blockchain, qu'est-ce que c'est ?
Ah ben, qu'est-ce que c'est, oui ? Allez, raconte-nous un petit peu.
Alors, vous avez sûrement entendu parler donc de Bitcoin.
C'est pas une insulte, hein ?
Non, non.
C'est pas en dessous de la ceinture.
Et non, c'est une crypto-monnaie décentralisée. Alors, en fait, c'est une monnaie qui utilise le chiffrement et qui n'a pas de serveur central. Donc, elle est décentralisée en peer-to-peer, hein, un peu comme... certains échanges, légalement ou pas d'ailleurs.
Alors, peer-to-peer, pour expliquer, effectivement, c'est un système d'échange d'un PC par un autre PC. Donc, un usager personnel à un autre usager personnel sur son ordinateur privé.
Comme BitTorrent aussi, c'est du peer-to-peer. Il n'y a pas de serveur central qui envoie les fichiers à tout le monde.
Et oui, n'associez pas toujours le peer-to-peer à des systèmes pirates.
Ou du peer-to-peer en mode, bah, c'est pire, encore pire, quoi. Pour les gens qui ne comprennent pas trop au premier abord.
Et donc, le Bitcoin, donc c'est une monnaie donc, qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre spécifique, et donc tout le monde peut participer à cette monnaie en branchant sa machine sur le réseau. Et en fait, elle utilise un truc qui s'appelle la blockchain. On pourrait dire que c'est un livre de compte partagé, en fait. C'est une forme de base de données que tout le monde peut lire, et donc vérifier que personne n'a triché dedans, parce qu'on peut vérifier que quand il y a un débit sur un compte, il y a bien un crédit du même montant ailleurs, et on peut vérifier. Donc,
c'est un peu quand même un peu de l'espionnage chez les autres.
C'est
de la transparence.
La blockchain, c'est un outil vraiment, c'est comme si tu avais ton notaire, mais dans ton ordinateur,
On est d'accord, mais au final, ça veut dire, moi c'est un peu le bémol que j'ai, hein, ça veut dire que si jamais je fais une action sur mon compte, n'importe qui va le voir, du coup ils savent ce que j'ai potentiellement chez moi ou autre.
Ils vont voir qu'il y a une action sur un compte, ils savent pas forcément que c'est toi.
D'accord.
Ah
là,
tu peux créer
déjà...
des comptes anonymes.
D'accord.
Bah oui. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent des trucs pas très légaux avec des bitcoins, parce que justement on sait pas trop qui c'est qui est derrière.
D'accord.
Donc voilà. Et en fait, donc en anglais ça veut dire chaîne de blocs. Hein, blockchain, c'est-à-dire en fait c'est une liste de blocs de données, donc des documents en fait, qui sont chaînés entre eux par une signature cryptographique, c'est-à-dire que le deuxième bloc par exemple, il va être signé numériquement, donc il y a quelqu'un qui va faire un calcul pour valider que en fait c'est bien lui qui a émis ce bloc-là, et à l'intérieur du bloc il y a la signature du bloc précédent, et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a signé le deuxième bloc, on signe aussi le fait que c'est le deuxième bloc par rapport au premier qui est désigné, en fait. Donc ça veut dire que on les chaîne, et en fait la signature...
Et le bloc, c'est le compte de quelqu'un ou c'est...
Non, le bloc, en fait, c'est une liste de transactions, par exemple, et puis
d'accord.
D'autres informations, dont justement la signature du bloc d'avant. Donc ça veut dire qu'on les chaîne, et en fait, en vérifiant le bloc N... Eh ben on sait que c'est bien celui du bloc, enfin le bloc suivant N-1, et après on peut remonter.
C'est la suite logique de transactions au final.
Voilà,
et
c'est
ça. Ils sont toujours liés à une première, forcément. On a un budget total, quand il y aura un décompte, on a toujours une suite de chaînes logiques derrière, comme nos comptes perso ou autre, quoi, au final.
Voilà, exactement. Et aussi, dans ces blocs, il y a aussi, on inscrit les créations monétaires. Parce qu'en fait, pour créer un bloc, il faut faire des calculs. Et donc, ça permet. C'est le fait de créer un bloc aussi qui crée de la monnaie. Et donc, à chaque fois, on crée de la monnaie comme ça.
Et par ce système, donc, il faut comprendre aussi que c'est le futur système qu'on va tous utiliser aussi sur l'Internet, quoi, pour les échanges et les transactions de monnaie.
Oui, avec PayPal et tous ces systèmes-là. Mais après, c'est encore un autre système, parce que là, au final, tu nous expliques le bloc de chaîne avec toutes ces informations, toutes les transactions qui sont liées toujours à la première, de base. Donc, dans un sens, avec en fait un suivi au final de toutes ces transactions. C'est-à-dire qu'on a toujours la somme initiale.
On a tout l'historique.
Voilà. Donc, ça ne peut pas s'effacer au final. C'est un blockchain.
Une fois que c'est dedans.
Dans le fait, on a le bloc et la chaîne, ça veut dire que les blocs sont enchaînés aux uns et aux autres et on ne peut pas les supprimer ou les effacer.
On ne peut pas tricher.
C'est un historique qui n'est pas supprimable comme sur les navigations privées ou autres.
Mais justement, il n'y a pas que des applications bancaires, il y a aussi les systèmes de vote électronique dans lesquels ils utilisent ce genre de système, quoi.
Alors, oui, on peut.
Pour voir où ça a été fait, qui s'est connecté, où et tout ça.
Alors effectivement, on peut imaginer plein d'autres applications. Hein. Je vais quand même juste finir un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Donc, alors effectivement, si on faisait juste ça, tout le monde pourrait publier des blocs à toute vitesse et en fait, tout le monde serait en compétition pour écrire le bloc suivant. Parce qu'en fait, chaque nœud calcule un bloc et puis il faut qu'il le diffuse aux autres. Donc le temps que lui le diffuse, il y a le nœud d'en face qui a aussi diffusé le sien. Donc pour départager en fait les nœuds, on demande une preuve de travail, c'est-à-dire un calcul dont on sait en fait qu'on peut pas prédire le temps qu'il va mettre à être fait. Et donc en fait c'est celui qui va mettre le moins de temps possible à faire ce calcul, et un calcul dont on peut vérifier qu'il a bien été fait. Juste on sait pas combien de temps il a été mis, on a mis pour le faire, mais on peut vérifier qu'il est correct. Et ben en fait c'est lui qui va l'emporter en fait sur le prochain bloc. Et donc en fait c'est une méthode de synchronisation distribuée. Non, c'est très important parce qu'on sait que ça peut permettre justement à plusieurs sources d'écrire dans une base de données, mais distribuée. Quand la base de données est sur un serveur, on sait très bien faire, synchroniser, ça, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Mais quand il n'y a pas de serveur central, jusque-là, on ne savait pas faire. Et donc, ça permet en fait de... Alors, parfois, il y a quand même des forks, hein, il y a des compétitions entre les nœuds. C'est un peu comme quand vous déposez un chèque à la banque, vous ne savez pas s'il va vraiment être débité ou crédité, ou s'il va être refusé. Hein. Donc, il y a une incertitude. Et après, il y a un consensus, c'est-à-dire que s'il y a plus de la moitié des nœuds qui ont adopté ce bloc-là, ça veut dire que c'est quand même ce bloc-là qui va être pris en compte. C'est comme quand votre banque, elle vous dit refus de chèque ou il est crédité. Il y a un consensus. Et effectivement, il y a plein d'autres applications à la blockchain, pas forcément juste de la monnaie. Et il y a notre ami Torlus qui a fait un article très intéressant qui explique que en fait, c'est une solution relativiste parce qu'elle remplace le temps informatique là, dans un monde distribué par de l'énergie, par la fameuse preuve de travail. On a dépensé de l'énergie pour créer du temps au niveau de le temps de la blockchain, quoi.
D'accord. Et donc, on peut retrouver toutes ces informations sur AAA.fr.
On vous mettra plein de liens.
Voilà, pour que vous compreniez un petit peu plus, puisque vous l'aurez compris, c'est pas un sujet qu'on peut aborder de manière facile en très peu de temps qu'on a actuellement. Donc, on vous invite, si vous êtes curieux de savoir, allez vous y intéresser sur ces différents éléments qu'on va vous apporter. Et on va donc passer à la suite.
Et donc, l'agenda.
Alors, l'agenda, il y a maintenant un club Ado Labo au 8 Fab Lab, tous les samedis à partir du 4 juin. Donc c'est déjà commencé. Le 8 Fab Lab propose des animations spécifiques pour les ados. Donc c'est un projet collectif à mener sur un trimestre ou une année, au choix des participants, hein, jeux, robots, machines. Le groupe est encadré par un animateur et dispose des outils du Fab Lab. Selon le projet retenu, d'autres intervenants pourraient être invités pour faire avancer le groupe.
Alors c'est tous les samedis de 14h30 à 17h, donc ça coûte 30€ par mois. Et donc c'est de 13 à 18 ans, donc le Fab Lab, ça se situe à où alors ?
Donc c'est 8 rue Court-Commer à Créer, on vous mettra aussi les liens sur notre blog.
Et maintenant nous terminons sur l'astrologique.
Science-fiction endettée ? Désolé, on n'est pas encore au 23e siècle où la monnaie a disparu. En attendant, il y a les monnaies libres.
Cosplay, ça existe les costumes de banquiers ?
Gamer, préparez le café et les enfêtes pour suivre les conférences de l'E3 et ne rien rater.
Maquettiste, Yamato a encore des supermarkets. Foncez, des maquettes, foncez-y.
Libriste, quoi, vous n'avez pas encore dégooglisé vos parents ?
Macounet, votre iPhone se plie ? Normal, Apple Store.
Eh bien, merci à tous, c'est fini. Au revoir Anya, au revoir Cécile.
Au revoir Mémumène.
Au revoir aux auditeurs.
À bientôt.
À bientôt.